entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Bonjour à tous, bienvenue dans Entre nous soit dit. Quand vous achetez et lisez un livre, la plupart du temps, vous ne vous doutez pas de ce qui se passe derrière. Vous allez à la librairie, vous choisissez un livre avec une jolie couverture ou le roman dont on parle dans les journaux, vous payez à la caisse, vous rentrez à la maison et vous lisez, plus ou moins distraitement, ces pages sur lesquelles un auteur en chair et en os a sué sang et eau pendant plusieurs jours, nuits, semaines, mois, seul face à la page blanche. Confortablement installé dans votre fauteuil, agacé ou ravi par votre lecture, en refermant le livre, vous serez probablement loin d'imaginer le chemin parcouru par le manuscrit pour devenir l'objet que vous tenez entre vos mains. Ça s'appelle « Le merveilleux monde de l'édition ». Ça paraît riche, brillant, intellectuel, plein d'auteurs à découvrir, mais on y trouve aussi des rancœurs, des frustrations, des manies, beaucoup de lassitude et de cynisme. Un monde décrit à l'encre trempée au cyanure par mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
Vous êtes un tout jeune auteur canado-suisse, on peut dire suisse, vous vivez en Suisse.
On peut dire suisse, ouais. On aurait pu dire canadien aussi.
Aussi, auteur.
Auteur en tout cas.
Tout court, hein, ça c'est sûr. Votre troisième livre, c'est un roman où il est sorti chez Olivier Moratel comme les deux autres. La combustion humaine, c'est le titre du livre.
Oui.
Et c'est l'histoire de Jacques Vaillant-Morel, un éditeur pathétique, désabusé. Vous êtes d'accord avec ces deux adjectifs?
Je crois, oui. Si on prend pathétique dans tout son sens et qu'on lui garde son sens de souffrance, je pense que oui, il est tout à fait pathétique et désabusé.
Mmh. Il souffre, mais en même temps, il fait souffrir aussi les autres.
Oui, je crois qu'il se paye bien sur les autres, oui. Mmh.
C'est sacrément gonflé quand un Mouron, vous êtes tout jeune, je le dis, et je sais que c'est pas très sympa de dire ça tout comme ça, parce que l'âge ne fait pas
non,
tout.
Non, mais on se rend compte assez vite. Donc.
Né en 89, gonflé de sortir ce livre qui, épingle et gratine beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, je crois que c'est vrai, c'était un pari, c'était... Mais ça s'est pas fait de... Je l'ai pas écrit comme un pamphlet, ça s'est vraiment structuré autour d'un sentiment qui est le besoin de reconnaissance, et j'ai décidé pour explorer ce sentiment-là de convoquer un personnage, de créer un personnage de toute pièce, même si je le trouve assez crédible, qui est Jacques Vaillant-Morel, qui est un éditeur genevois. Mais donc je pense qu'à la base, il y avait vraiment ce sentiment-là, cette solitude que j'ai voulu, à laquelle je me suis intéressé, et puis ensuite est venu le décor, le milieu littéraire qui s'est posé de manière naturelle, puisque le personnage était éditeur. Si j'avais parlé d'un pêcheur, j'aurais eu un autre arrière-plan. Donc là, il y a eu le milieu de l'édition. Et puis, les réseaux sociaux qui sont arrivés aussi naturellement, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps à titre personnel, sur lequel j'ai pris beaucoup de notes, sur lequel j'ai fait beaucoup d'observations, et surtout que je pratique quotidiennement, puisque je suis inscrit tant sur Facebook, Twitter que Instagram. Mmh.
Puisque c'est aussi de cette époque-là, vous faites partie de votre époque, Quentin Mouron. On a envie de vous demander, alors d'abord, première question, c'est que vous dédiez ce livre à Olivier Moratel, votre éditeur. Vaillant-Morel, ça ressemble un peu à Moratel, mais c'est un peu un anti-Moratel, ce François Vaillant-Morel.
Oui, je crois que c'était vraiment un clin d'œil humoristique, déjà son nom et cette dédicace. Cette dédicace a deux sens. D'une part, ça renforce ce trait d'ironie, mais aussi c'était une manière de témoigner de ma reconnaissance envers Olivier Moratel, qui m'a suivi depuis le début, et puis qui a accepté de publier ce livre avec lequel moi-même je me suis pas fait que des amis, mais moi j'en cherche pas et j'en ai pas forcément besoin, tandis que lui en tant qu'éditeur doit quand même ménager parfois la chèvre et le chou, et là c'était beaucoup plus périlleux, disons, pour lui que pour moi.
Et c'est un éditeur qui ose, un éditeur engagé qu'on salue d'ailleurs, petite maison d'édition, mais qui vaut le coup. Il publie aussi d'autres auteurs, quelques autres auteurs que vous, Quentin Mouron. Mais est-ce que c'est aussi vraiment aussi noir que ça, le monde de l'édition, ce que je décrivais là?
En tout cas, par le regard de ce personnage-là, c'est noir. Ça n'est pas forcément... Il y a des moments exceptionnels aussi qu'on peut vivre dans ce milieu littéraire. Je pense par exemple au livre sur les quais à Morges. On était tous réunis, on buvait l'apéro. C'était assez sympathique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que du noir, bien évidemment. Mais j'ai pas eu envie de faire... Il aurait fallu plus de pages si j'avais voulu faire une sorte de vraiment de portrait d'un milieu. J'avais voulu vraiment me lancer dans une œuvre comme ça, balzacienne, descriptive et entrer vraiment dans ce milieu-là, il aurait encore fallu plus de recherches et plus de pages. Là, c'est vraiment, je voulais seulement un sentiment. Et puis, simplement aussi, c'est vrai, oui, il y avait une envie, bien évidemment, de griffer comme ça, parce qu'il y a des choses comme ça qui sont assez, finalement, assez ridicules, C'est plus ridicule que méchant, d'ailleurs, parfois, ce qui se passe dans le milieu de l'édition. Mais
Comme par exemple ?
Je pense, par exemple, à certaines manières dont sont octroyées que ce soit les subventions, que ce soit les prix, que ce soit, ou bien même les articles, comment on décide, par exemple, de qui on va parler,
d'un livre. On vous invite, vous, ici, Quentin Mourant?
Oui, alors, mais moi, je suis tout à fait dans ce système-là, et puis je crois que ça fonctionne bien pour moi, donc c'est pour ça aussi que j'ai profité de le faire maintenant, parce que c'est facile de tirer à boulet rouge sur les journalistes quand on n'est pas invité et que quand personne ne parle de nos livres, tandis que quand on parle de nos livres, eh bien, on le fait de manière un peu plus naturelle, et puis sans aigreur, j'ai vraiment essayé de faire un livre qui n'est pas un livre aigre, en tout du point de vue de l'auteur. Après, le personnage, ça peut se discuter, mais disons, du point de vue de l'auteur, n'est pas un livre aigre, n'est pas un livre
d'auteur déçu,
mmh. Voilà, qui serait mis au banc. Donc là, c'est vraiment pour ma part, j'ai pas du tout à me plaindre du traitement que je reçois par les médias. Donc du coup, je peux me permettre d'autant plus de les égratigner, d'égratigner le milieu, d'égratigner les donneurs de prix, de subventions. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie aussi d'une certaine intégrité intellectuelle à laquelle j'essaye de prétendre. Mmh. C'est-à-dire que c'est parce que je fais partie de ce milieu-là que je peux le définir, et parce qu'il ne m'est pas complètement hostile que je peux montrer son hostilité pour d'autres. Et c'est aussi... Alors on dit aussi que je ridiculise les éditeurs, les fonctionnaires de la culture, les journalistes, mais en fait ceux qui sont quand même, à mon sens, le plus ridiculisés et le plus caricaturisés sont les auteurs, et, avec leur ridicule, avec leur ego, avec leur...
Il y a des fous aussi, complètement dingues.
Oui, alors voilà, oui, exactement. Exactement, vraiment, et je pense que c'est ça aussi qui était... Et les auteurs en général, et les journalistes aussi d'ailleurs, ont eu un certain sens de l'humour que n'ont pas eu certains éditeurs, évidemment. Peut-être que je sais pas si ça tient à leur fonction ou si c'est quelque chose. Bon, je veux pas.
Ça les embête d'avoir pas publié ce bouquin, peut-être.
Peut-être que c'est ça.
Non, mais vous comprenez aussi, Quentin Mourant, que certains disent il est quand même gonflé, c'est son troisième bouquin, il a pas 30 ans, et déjà, voilà, il fait un truc un peu révolutionnaire, rebelle.
Oui, je crois que c'est un peu le bruit qui court, véhiculé par plusieurs acteurs du milieu, certains vieux apparatchiks comme ça de l'édition romande. Et la formule consacrée, ça, il a pas 25 ans, et il se permet d'écrire ça. Bon, bah, évidemment, je me demande si j'aurais. Alors moi, ce que je leur demande, c'est à quel âge on peut écrire ça. Est-ce qu'il y a un âge précis? Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir 42 ans, ou est-ce que c'est plutôt 51? Est-ce que, enfin, quel est l'âge pour faire ce genre de littérature? Pour moi, il n'y a pas d'âge pour aborder quel que soit le sujet, que ce soit la mort, que ce soit le désespoir, que ce soit l'amitié, l'amour. Je pense que c'est des sujets qui peuvent parler. D'ailleurs, mes lecteurs ont tous les âges, de 15 à 90 ans. Donc c'est vraiment... moi, j'ai pas du tout... Donc je pense que l'auteur peut lui-même avoir l'âge... Un âge indifférent, disons.
D'ailleurs, difficile de le deviner, des fois, quand on lit les livres. Vous avez d'ailleurs écrit d'autres livres sur d'autres sujets, hein. Il y en a eu deux avant, je le disais. Il y a eu Au point des fusions des égouts et puis Notre-Dame de la Merci.
Exactement.
Voilà. C'est paru en 2011 et 2012, respectivement. Voilà, un par année. Vous êtes comme Amélie Nothomb.
Oui,
peut-être. Comme beaucoup d'auteurs. J'ai envie de lire un extrait de celui-ci, parce que vous parliez de ce name dropping, comme on dit en bon français, c'est-à-dire ces noms que vous lâchez. Il y a des personnages réellement existants et qui sont peut-être vexés d'ailleurs de se lire comme ça dans votre livre. C'est un passage qui parle d'une fête organisée en honneur à Joël Dicker, autre auteur tout à fait réel et existant.
Exactement.
Jeune auteur comme vous. Et voilà cette fête où vous-même vous vous mettez en scène. Sur ces entrefaites, les néons s'étaient éteints et c'est dans une lumière vague, tamisée, qu'était entré Dicker, suivi des invités d'honneur. Morel avait d'abord distingué Quentin Mourant, qui était mal habillé et titubait un peu. « Qu'est-ce que ce petit con fout-là » avait-il grogné à l'oreille de Valjus, qui avait haussé les épaules. « Et voilà le grand prêtre, tiré à quatre épingles », avait commenté Morel alors qu'entrait Charles Baire. « Voilà à quoi ressemble un socialiste moderne. » « Et voilà Berrurier », tandis que Sami Kanaan fermait le cortège. « On se demande ce qu'ils vont pouvoir raconter », souffla Valjus. Après que Doris Yacoubek, qui présidait la cérémonie, eut fini son introduction, Kanaan était monté à la tribune et, très peu à l'aise, d'autant moins qu'il avait avoué d'emblée ne pas avoir lu le bouquin, avait débité des platitudes qui se voulaient spirituelles. Ne voulant sans doute pas avoir l'air moins ridicule que son prédécesseur, Charles Baire avait lui aussi avoué ne pas avoir lu le livre, mais s'était déclaré impatient de le faire. Puis, il avait récité ses lieux communs, matinés de pédantisme, qui lui assuraient une réputation d'orateur de premier ordre. Mourant était venu ensuite parachever le spectacle, balbutiant un éloge mal préparé, faisant la part belle aux blagues faciles, et dont la différence avec les deux autres résidait dans le fait qu'il avait lu le livre. Ces trois clowns expédiés, Dicker était monté à la tribune pour un discours improvisé, et un peu plat, qui fit poliment larmoyer l'assistance. Voilà qui est fait. Allez, maintenant, la bouffe. Banzai.
Je ne cherche jamais la querelle. Je suis doux comme une tourterelle. Mais là, oh là, alors là, il y a eu un silence hostile. Les types n'aimaient pas mon style. Mes lunettes, mon chapeau, mon parapluie et mon museau. Alors j'ai enlevé mon chapeau. Je me suis mis en tricot de peau. Je me suis mis en caleçon. J'ai dit messieurs, en position. Je n'ai de dents contre personne. J'aime la pop sale anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre. C'est comme fumer un bon cigare. Je ne cherche jamais la querelle. Je suis doux comme une tourterelle. Mais de temps en temps une petite bagarre. C'est comme fumer un bon cigare. Je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Mais si l'on me marche sur la queue. Oh là, oui là, alors là. Je ne suis pas un mauvais coucheur. Mais si l'on parle pas bien de ma sœur. Je me mets en caleçon. Je dis messieurs, en position. Je n'ai de dents contre personne. J'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre. C'est comme fumer un bon cigare. Mais soudain le téléphone sonne. Ma femme me demande en personne. J'entends sa douce voix qui me dit. Donne le bonjour à tes amis. Je t'ai préparé des raviolis. Tu penses à ramener le pain, chérie. Il y a eu un silence de mort. J'ai remis mon tricot de corps. Nous reprendrons cela demain. Ce soir c'est rond. Nous donc la main. Je n'ai de temps contre personne. J'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre. C'est comme fumer un bon cigare. Je ne cherche jamais la querelle. Je suis doux comme une tourterelle. Mais de temps en temps une petite bagarre. C'est comme fumer un bon cigare. C'est comme fumer un bon cigare.
C'était la voix de Thomas Fersen avec la boxe à l'anglo-saxonne. Ça, c'est quelque chose que pourrait bien pratiquer mon invité d'aujourd'hui aussi, Quentin Mouron, qu'il pratique en tout cas avec les mots dans La combustion humaine, son dernier livre paru chez Olivier Moratel. Quentin Mouron, on va continuer, on va parler de vous maintenant. Mais juste avant de parler de vous, on va parler des routes de Suisse, figurez-vous. Mais moins longtemps.
Infotrafic RTS.
Attention, on nous signale qu'un véhicule a perdu des objets sur les voies de circulation sur l'autoroute de contournement de Lausanne entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et Lausanne-Blecherette en direction de Vevey. Faites preuve de prudence si vous circulez sur ce tronçon.
Moi, je tiens Kant pour, je crois bien, le plus grand des philosophes. Ou en tout cas, c'est pas toujours facile de faire des hiérarchies, mais l'un des tout grands philosophes. C'est un géant de la philosophie. C'est un géant par sa radicalité de pensée, par sa capacité de tenir ensemble en même temps tous les fils, de ne pas se laisser séduire, comme il arrive si souvent aux philosophes, par une idée qui lui vient, de ne pas donner à cette idée qui lui vient une portée exclusive, disproportionnée, qui tordrait désormais tout le reste. par la capacité de rééquilibrer sans cesse ses pensées les unes par rapport aux autres. Une radicalité équilibrée, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile.
Ah, Quentin Mouron, réaction ?
Mais je sais pas si je dois deviner le nom de la chanteuse, mais...
c'est Jeanne Hersch qui parle.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
Et on parle de Kant, Emmanuel Kant. La radicalité équilibrée, ça vous parle ?
Oui, ça me parle. Il y a peut-être des notions kantiennes qui m'ont parlé plus immédiatement, mais c'est drôle parce que j'ai pas longtemps que j'ai relu Jeanne Hersch et Kant aussi. Donc ça, c'est aussi c'est assez drôle de les voir d'un coup mélangés. Bon, c'est vrai que c'est un binôme qui fonctionne bien, disons. Mais oui, radicalité équilibrée, c'est toujours un peu difficile de manier comme ça des concepts propres aux philosophes parce qu'ils ont un tel... ça veut dire quelque chose de bien précis pour eux. Et puis du coup, quand on les reprend, quand on rebondit dessus, on a des fois l'impression d'être un peu démunis. Mais... oui, radicalité équilibrée. Je sais pas si oui, ça pourrait.
Ça vous va bien aussi, je trouve.
Oui, je crois que ça pourrait bien m'aller. J'espère que je vais garder cet équilibre-là. Des fois, je suis un peu plus borderline, mais je pense que ça va.
Vous avez peur ?
Non, j'ai pas peur.
Pourquoi vous êtes borderline ?
Non, je pense que des fois, je peux perdre certains contrôles, mais je le reprends assez vite. Donc peut-être que dans ce sens-là, il y a quelque chose d'assez juste dans cette citation.
Alors Kant, si je vous ai choisi un extrait sur Kant par Jeanne Hersch. Alors Jeanne Hersch, j'imagine bien sûr, vous la connaissez puisque vous êtes étudiant en philo, en train de finir votre bachelor. Mais surtout Kant, parce que Kant, c'est un auteur qui vous passionne, je crois, Quentin Mouron.
Oui, je crois que c'est vraiment un des auteurs dont la lecture m'a le plus marqué. Je pense que c'est un des auteurs qui est responsable de mon choix d'études ensuite. J'étais dans le désert californien quand des amis ont débarqué chez moi et je leur avais dit, mais prends-moi des bouquins assez épais, assez conséquents parce que je trouve pas de livres en français et je lis mal l'anglais, alors si tu pouvais me prendre des trucs qui me durent longtemps. Alors ces amis-là sont arrivés avec La critique de la raison pure et La phénoménologie de l'esprit de Hegel.
Ça.
Donc là, c'était, oui, d'ailleurs, pour Hegel, je crois que j'en suis toujours à l'introduction. Donc ça, c'est dire que
oui,
ça...
Oui, vous avez dit, j'ai rien compris à Hegel.
Oui, j'ai de la peine à comprendre.
Et vous avez compris Kant.
J'ai compris Kant. Enfin, j'ai compris Kant, c'est présomptueux de ma part, mais j'ai pas même passablement lu Kant. Et c'est vrai que je suis un peu resté sur la touche avec Hegel. Je le reprends rituellement toutes les années. Je défriche tranquillement. Et je pense que ça, j'en viendrai à bout, si j'ose dire. Mais c'est vrai que la pensée de Kant m'a parlé de manière un peu plus immédiate, même quand j'étais comme ça...
En plein désert.
En plein désert, un peu démunis, disons. C'était difficile d'accéder à des clarifications, à des que sais-je, ou des balises, ou je sais pas quoi encore. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a parlé, ou en tout cas qui m'a vraiment énormément fait réfléchir et qui a d'une part décidé de mon orientation pour mes études ensuite, mais qui a aussi je pense déclenché, ou en tout cas peut-être mis une épaisseur à mon écriture. J'écrivais déjà, j'avais déjà commencé à écrire un roman, mais c'est vrai qu'après cette lecture là je me suis dit, mais on peut pas juste raconter des histoires, on peut, vous savez, souvent j'entends beaucoup d'écrivains qui disent, mais être écrivain c'est raconter des histoires, c'est créer des personnages puis les faire vivre. Puis moi j'ai l'impression des fois qu'on est à la télé puis qu'on est en train de regarder nos petits personnages bouger. C'est pas du tout mon orientation. Moi j'aime bien amener quelque chose de plus sans rendre le livre indigeste. D'ailleurs même souvent ça le rend, c'est même des fois ça qui le rend plus digeste, c'est justement avoir des passages un peu plus réflexifs. Et ça, c'est vrai que c'est, je pense que c'est la lecture de Kant a été une des... Ça a été déterminant pour moi.
C'est quoi ? C'est entrer dans la psychologie du personnage ? Entrer dans son cerveau ? Sa philosophie ?
Je crois pas. Je crois que l'épaisseur d'un livre, c'est difficile de définir. Là, ce passage-là est profond, celui-là ne l'est pas. Je pense qu'il y a vraiment des enchevêtrements. Par exemple, moi, quand je lis Dostoïevski, j'ai l'impression d'être face à un livre qui est épais, qui est pas seulement épais, parce que, oui, en général, ils font 600 pages, donc c'est vrai qu'ils sont souvent épais physiquement, mais c'est vrai que c'est un livre qui est épais, qu'on peut relire sans problème. Quand je lis Céline également. Et puis des fois, d'autres auteurs, je me dis non, c'est bien, c'est une jolie histoire, il y a quelque chose d'émouvant, je balance deux ou trois larmes, et puis voilà, c'est les larmes syndicales, et puis ensuite on le referme, et puis il ne reste plus rien, tandis que j'essaye de tendre vers une certaine épaisseur, et je pense que ça a vraiment été le déclic, ça a été la lecture de La critique de la raison pure dans le désert de Joshua Tree en Californie.
En 2009.
En 2009, ouais, exactement.
C'était votre voyage en Californie. Avant ça, je le disais tout à l'heure, vous êtes canado-suisse, alors... On s'en fiche pour l'auteur que vous êtes, ça c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est que quand vous avez 3 ans, vos parents vont vivre en pleine forêt québécoise.
Exactement.
Dans un coin complètement perdu.
À Notre-Dame de la Merci, qui était le titre de mon deuxième livre. Oui, je crois que c'est un village assez perdu, en effet, on peut le dire. Après Notre-Dame de la Merci, à 50 km, il y a encore un village quand on va au nord, et puis ensuite, il n'y a plus rien jusqu'au pôle nord. Donc c'est assez perdu.
Ouais. Vous y resterez une dizaine d'années.
Exactement.
Ouais. Comment ça vous marque cet endroit-là ? Déjà, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? À quoi ça ressemblait ?
Je l'ai déjà un peu décrit, mais c'était, j'en ai fait, c'est un peu biaisé parce que j'en ai fait un huis clos de théâtre dans mon deuxième livre, ce qui est pas tout à fait le cas. Disons, c'était évidemment, comme pour le milieu littéraire roman, c'était évidemment, je veux pas dire exagéré, mais ça servait les besoins.
Peut-être,
oui, ouais. Je pense que c'est un outil tout à fait noble, la caricature, mais je pense que surtout ça, je fais toujours attention à ce que les décors, ou les endroits que je choisis se plient à l'inflexion que je vais donner à mon roman. Donc Notre-Dame de la Merci, pour c'est un village de 500 habitants, une commune de 25 km/25 km, donc c'est très espacé, il y a très c'est souvent des gens qui, il y a une jeunesse très comment on dit, très mince finalement à Notre-Dame de la Merci. C'est quand même beaucoup de retraités, beaucoup de chalets aussi pour les vacances. Donc c'est vrai qu'en période creuse, il y a vraiment plus personne. Et ça donne quelque chose, je veux pas dire d'angoissant, parce que moi je m'y sentais très bien, mais quelque chose d'atypique en tout cas. Et c'est vrai que tous ceux qui sont passés par là, alors que c'est un village comme il y en a plein d'autres au Québec et en Amérique du Nord, mais on ressentit quelque chose d'assez particulier. Et même autour, les villages d'à côté, on me dit mais vous êtes à Notre-Dame de la Merci, mais c'est pas possible. Alors pour moi, c'est un village qui est charmant, mais plus que ça, qui est vraiment... qui représente quelque chose, qui a une certaine force, qui a une, je parle pas d'une institution politique, du coup, je sais pas du tout qui est maire là-bas, je m'en préoccupe absolument pas, mais qui, comme lui,
dégage
en tout cas,
quelque chose.
Comme lui artistique, je pense que c'est intéressant, et c'est pas pour rien que mon père y est allé, puisqu'il est, il est artiste peintre, et il y a vécu 10 ans où il a réalisé là-bas des tableaux assez merveilleux, ce qu'il continue à faire aujourd'hui, mais disons des tableaux qui sont tout à fait, à mon avis, vraiment intéressants et qui en plus, une des grandes œuvres, ça a été ce qu'ils ont créé là-bas, ce lieu particulier qui était à Notre-Dame de la Merci sans y être, qui était vraiment une propriété sur laquelle j'ai grandi et qui m'a apporté beaucoup, je pense.
Où l'art était un genre de way of life, une manière
de
vivre.
Exactement, oui, parce qu'on avait parmi les invités qui venaient là, ou même les clients, parce qu'ensuite ça a pris la forme d'une sorte de, non pas de gîte, mais de maison d'hôte, et on avait énormément de journalistes, d'écrivains qui sont venus, et donc c'est vrai que pour moi ça a été aussi une sorte de formation de pouvoir discuter, et comme j'étais tout seul, moi je discutais avec eux et eux discutaient avec moi, donc ça a été aussi une formation assez intéressante, et puis bien évidemment le calme, la solitude sont des choses dont j'ai profité, qui sont des choses qui là-bas étaient des choses très positives. Pour mon dernier livre, le sont un peu moins, mais pour ma part, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant, et j'en suis très reconnaissant à mes parents qui sont partis, qui ont le courage de partir là-bas avec un enfant en bas âge. Moi qui n'ai déjà pas le courage d'avoir des enfants, c'est d'autant plus méritoire.
S'ils nous écoutent, on les remercie aussi. Puisque après ça, vous avez écrit des livres entre 3 et 13 ans, donc vous êtes là-bas à peu près. Qu'est-ce que vous lisez? Parce que c'est une période formatrice quand on est un lecteur.
Je sais plus ce que je lisais. Je sais plus du tout. Qu'est-ce que je lisais? Je pense certainement. Bon, j'imagine que j'étais très fan de tout ce qui était Dragon Ball Z et autres trucs. Enfin, voilà, je lisais aussi des bandes dessinées, mais aussi assez vite des livres, des romans. Et c'est pas encore là que je lisais vraiment énormément. Je crois que je faisais beaucoup d'autres choses, mais je lisais assez peu. C'est venu un peu plus tard, à l'âge de 15-16 ans, que j'ai vraiment commencé à avoir une espèce de frénésie de lecture. Un peu trop d'ailleurs, puisque ça m'a fait rater ma première année de gymnase. Je passais mon temps à lire pendant les cours, j'avais plus au cours pour lire. Donc après, j'ai réussi à modérer la chose. Mais c'est vrai que c'est surtout à cette époque-là qu'est venu plutôt.
Le premier livre qui vous a marqué à ce moment-là, 15-16 ans, c'était quoi?
Il y en a eu plusieurs. Moi, je pense au Marquis de Sade notamment, qui a aussi eu un certain impact sur ma sexualité. Bon, c'est pas pour le meilleur, mais enfin. Et aussi, je pense encore à Madame Bovary, qui est devenue une espèce de rituel, comme ça, que je relis pratiquement tous les automnes. Des fois, même sans faire exprès, je me dis pas, là, je dois relire Madame Bovary, mais d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de lire? Bah, tiens, puis je le reprends, je crois que c'est la 8e fois que je le lis.
Là aussi, un livre épais, comme Dostoïevski.
Un livre assez épais, oui, assez épais, c'est vrai. Et puis, que je relis très souvent.
Dans tous les sens du terme, je veux dire.
Exactement, oui, alors vraiment, dans tous les sens du terme. C'est un livre que je redécouvre des choses à chaque fois, et puis donc Flaubert, j'ai aussi Sade, encore j'ai aussi Oscar Wilde, j'ai été assez marqué par le Portrait de Dorian Gray, il y a eu Nietzsche aussi que j'ai découvert à ce moment-là, et même si j'ai pas eu la même assiduité, les mêmes affinités qu'avec Kant, mais enfin ça a été, je crois que ça a été vraiment le début, c'est parti comme ça.
On était en Californie, dans le désert, puisqu'on a eu Nietzsche, machin. Après, il y a Kant, bien sûr,
exactement,
avec lequel on a commencé. On retourne aux États-Unis avec Johnny Cash, ça vous va?
C'est parfait.
can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Ça fait du bien d'entendre la voix de Johnny Cash. Vous me disiez, Quentin Mouron, que c'était un souvenir aussi des États-Unis, mais pas du désert californien qui était en 2009. C'était
du désert de l'Arizona cette fois.
Parce que le désert, c'est un peu votre truc aussi.
Oui, je crois que c'est assez. Oui, que ce soit le désert social ou physique, je crois que c'est assez, c'est assez mon terrain de prédilection.
J'ai toujours été, au fond, porté dès mon adolescence à partager les enthousiasmes que j'éprouvais à la lecture d'un livre. Ça pouvait être Alexis Zorba de Kazantzakis, ça pouvait être Sandra ou les écrivains qui m'ont passionné à cet âge. Ça pouvait être aussi simplement l'envie de se raconter le dernier Bob Moran, parce que la lecture n'est pas seulement sérieuse, entre guillemets. L'intérêt pour toutes sortes de lectures était aussi partagé. Je crois que quand on est dans cette disposition d'esprit, on devient très vite soi-même éditeur d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, par la suite, disons, j'ai fait ce travail de critique littéraire, non pas du tout pour la fonction, ou pour l'aspect, disons, magistral que peut avoir une telle fonction, mais beaucoup plus dans l'optique d'un partage, précisément.
Vous avez tout de suite reconnu cette voix, Jean-Louis Cuffert.
Oui, bien sûr.
On la connaît bien, d'ailleurs, dans cette radio à la RTS. Là, c'était en 2004, au micro de Charles Sigel. Jean-Louis Cuffert, il a quand même pas mal compté dans votre carrière.
Oui, voilà, exactement, bien sûr.
C'est lui qui vous remarque pour la première fois.
Oui,
lors
je crois
de la sortie
que c'était le premier article d'importance qui a été publié,
dans
24 heures, exactement.
Ouais. Et il parle, j'ai noté une citation, la patte d'un écrivain pur sang. Mmh. Pas mal, hein.
Oui, non,
et puis vous compare à Céline.
Oui, voilà, exactement. Ça a été tout en nuançant le propos, mais enfin, c'est vrai que ça a été tout de suite une lecture que j'ai vraiment prise très au sérieux, pas seulement parce qu'elle était élogieuse et positive, mais parce qu'elle, contrairement à certaines critiques, des fois un peu fait à la va-vite, que ce soit positif ou négatif, là, je trouvais qu'il y avait quelque chose vraiment de plus que juste dire j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé. Donc c'est vrai que c'est... Et puis par la suite, il a postfacé le deuxième roman et puis parlé très vite du troisième. Donc c'est vrai que pour moi, c'est...
Il n'a pas trop aimé le troisième, je crois.
Ça dépend des versions. Il a fait une première lecture qui était à mon avis plus juste que la deuxième, pas parce qu'elle était plus positive, mais qu'elle est un peu plus au fond des choses et qu'il voyait un peu plus justement ce dont je parlais tout à l'heure, le besoin de reconnaissance, la solitude, des éléments comme ça qui étaient pour moi vraiment majeurs dans ce livre. Et il m'avait dit d'ailleurs, mais c'est pas du tout un pamphlet, c'est vraiment un travail sur cette solitude, sur les réseaux sociaux et sur le milieu littéraire, mais de manière, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un décor. Et puis, oui, ensuite il l'a relu ou alors il a changé d'avis. Et puis c'est vrai que là il y a vu plutôt un pamphlet comme ça. Et puis bon, c'est son droit. Moi, je suis tout à fait content qu'il le dise. Donc je pense que c'est dommage si les journalistes commencent à céder. Et ils le font parfois simplement au copinage. Et c'est pas parce que je lui ai amené une bouteille de rouge une fois qu'il doit dire du bien de mon livre, de mes livres pendant 10 ans. Donc pour moi, ça c'est très clair. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas du tout de malentendu entre nous. Je crois, c'est vraiment il a donné ses avis. Comme je le dis, j'ai préféré quand même la première version. Mm-hmm. Je pense qu'elle va plus loin que de parler simplement d'une caricature, mais c'est son droit le que je respecte. Mm-hmm.
On peut aimer ou ne pas aimer les livres, ça, bien évidemment, et ça n'atteint en rien leurs auteurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il disait là? Parce que c'est assez intéressant son propos sur la lecture et puis l'édition et la critique.
Oui, non, je pense qu'on a eu une même manière aussi d'approcher les livres au début, et puis et c'est vrai que
sauf que vous c'était Dragon Ball et lui c'était Bob Moran.
Voilà, exactement, c'était Bob Moran. Et ouais. C'est vrai que ça m'arrive encore maintenant, mais pendant longtemps je jure encore, j'ai adoré tous les Harry Potter, je me prive pas de le dire, je les ai relus encore aux États-Unis. On a parlé de Kant, on pourrait aussi parler d'Harry Potter, j'ai relu presque en entier en anglais cette fois. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a toutes sortes de choses qui me passionnent dans la lecture, au sens très large, et pas seulement certaines œuvres classiques. Mmh. Mais le contraire n'est pas vrai non plus, où on a l'impression qu'un livre, qu'on doit forcément s'amuser avec un livre, un best-seller, alors qu'on s'emmerde avec un livre de littérature. Moi, je prends comme exemple, l'autre jour, j'étais un peu malade, je me suis dit, bon, faut que je trouve un truc un peu facile à lire. Et j'ai téléchargé sur ma liseuse le dernier Dan Brown, mais j'arrive pas, j'ai jamais mis autant
Inferno,
de temps
pour. Je crois que ça s'appelle.
Voilà, exactement, mais j'ai jamais mis autant de temps pour finir un livre, mais je m'emmerde, mais c'est effrayant.
Mais
il se passe rien, on passe d'un musée à l'autre. Comment? On voit une statue, une
c'est
autre.
Trépidant quand même.
C'est pas du tout trépidant. Moi, j'ai pas trouvé que c'était trépidant du tout. Enfin, alors c'est vrai que dans les 15 premières pages, ça part fort. Il y a une poursuite, il y a des gens qui se tirent dessus, ça me plaisait bien.
Mais qu'est-ce qui vous manque? Puis peut-être ensuite, justement, cette profondeur dont vous parliez tout à l'heure.
Non, là, je crois que ce qui me manque vraiment, c'est vraiment de l'intérêt, même de suspense élémentaire. Là, je trouve qu'il y a vraiment rien. Je suis très déçu parce que je me suis dit, cette fois, on doit quand même, je pense, je m'attendais quand même à quelque chose qui soit au moins divertissant. Et c'est vrai que j'ai été très déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est plat? Il se passe vraiment rien. Autant reprendre Madame Bovary. Il y a
plus
d'action.
Ça, je me suis dit, du coup, vous avez repris votre bon vieux Madame Bovary.
Oui, c'est ça, parce que là, il y a toute une série de meurtres, mais on apprend que finalement, c'est pas vraiment des meurtres, et puis ensuite, on sait plus, puis ensuite, c'est pas quelque chose qui m'a. J'ai trouvé vraiment ça très soporifique. Alors vraiment, pourtant, je peux tout à fait lire un bon polar, un bon thriller, un bon roman d'action. C'est aussi ce qui m'avait séduit dans le Dicker, c'était ces rebondissements, ce suspense.
Oui, Dicker, vous avez bien aimé. Hein,
oui, alors vraiment, oui, j'ai beaucoup aimé son livre. Et c'est vrai que là, il y avait tout ça, j'avais pas envie de le lâcher.
C'est
tandis que celui-là, je m'endors 3 fois, ça m'arrive jamais, mais c'est vraiment effrayant. Je commence à remettre en question ma propre santé en lisant ça.
vous parliez donc de ces livres d'enfants, de ces livres que vous lisez aujourd'hui, et puis Jean-Louis Kuffer, je suis un peu perdue, pardon, parce que vous m'avez perdue avec Inferno. Jean-Louis Kuffer, vous l'avez bien sûr rencontré. Mm-hmm. Est-ce qu'il vous a donné des conseils d'abord?
Non, je crois pas qu'il m'a donné de conseils. Je pense que même. C'est peut-être moi qui lui ai conseillé de pas me donner de conseils, mais enfin non, je crois qu'on n'était pas dans ce rapport-là, et heureusement, je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé entre nous. Je pense qu'il a compris que j'étais un écrivain avec une certaine susceptibilité, un certain ego peut-être, et qui convenait de respecter cette œuvre-là, puis de voir ensuite de juger après si évidemment le livre lui plaît pas, ça c'est son droit. Mais ensuite, je pense que c'était bien, si c'était une bonne manière. Moi, j'aurais horreur de me faire donner des conseils, et Anne Cuneo a procédé exactement de la même manière, et encore de manière plus directe. Elle m'a dit, la première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit, écoute Quentin, j'ai pas envie, je te donnerai pas de conseils. Et puis je lui ai dit, c'est parfait, moi j'ai pas envie d'en recevoir, ça va très bien. Et comme ça, après, on a pu parler toutes sortes de choses, de littérature, de politique, d'histoire. Enfin, c'était beaucoup plus riche que si on s'en tenait à un rapport maître-élève qui finalement est assez stérile.
On regarde la feuille, on dit, là t'as mis une virgule, là pas.
Oui, bien. Voilà, exactement, là il faudrait, voilà. Puis là, alors moi j'aurais amené cette description différemment, puis un dialogue doit. Enfin, moi je pense que, en plus, ce sont des écrivains qui écrivent leurs livres et qui me foutent la paix avec les miens.
On a parlé tout à l'heure de votre voyage aux États-Unis, parce qu'avant d'écrire ce premier livre remarqué par Jean-Louis Kuffer, vous avez fait ce voyage en Californie. Alors, il y a eu l'Arizona, puis ensuite la Californie. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Parce que c'est un peu toujours les mêmes décors.
Non, je crois quand on y reste assez longtemps, on voit toutes sortes de variations de déserts. On peut vraiment, on voit quand on a bougé de 50 km. Donc, Non, c'est assez riche. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui... Il y a rien vraiment d'ordre mystique qui me plaît. Je suis pas quelqu'un de très mystique, mais par contre, il y a quelque chose vraiment. Je sais pas si je me sens bien, mais en tout cas, je réfléchis mieux dans le désert. Et puis aussi, je crois que c'est. Bon, il y avait une question pratique aussi. Je suis canadien, c'est facile pour moi d'accéder partout en Amérique du Nord, plus facile qu'ailleurs. Mais pour des raisons de langue, pour des raisons politiques.
Vous auriez pu aller à New York.
J'aurais pu aller à New York, c'est vrai. Non, les villes m'attirent moins en général. J'aime bien y passer quelques temps. J'aime bien observer. Je me sens proche de certaines villes, mais après, j'aime bien me retirer dans le désert ou dans les forêts aussi, évidemment, au Québec, ou ailleurs. Voilà, oui, exactement. Oui, retourner à la maison comme ça. Non, mais je sais pas vraiment ce qui m'a attiré tant que ça dans le désert. Mais je crois que pour tous les visiteurs, tous ceux qui m'ont parlé de cette expérience-là, n'arrivaient pas vraiment à définir. Parce que, mais il y a rien, c'est vrai. Il y a que des cailloux. Et finalement, on a envie d'y être, on a envie d'y rester. On a même des fois envie d'y vivre. Donc, je sais pas d'où ça vient.
Mais c'est peut-être comme vos 15-16 ans où vous vous ennuyiez à mourir et puis vous vous êtes mis à lire et puis à écrire.
Oui, en tout cas, ça a été
l'ennui
responsable.
Est créateur.
Alors, c'est vrai que le premier séjour dans le désert avait été un peu ennuyant pour moi, ennuyeux, disons. C'est vrai que c'est là que j'ai commencé, mais aussi parce que j'y suis resté longtemps. Là, j'ai commencé à lire, à écrire à ce moment-là. Mais c'est vrai que sinon, mon deuxième séjour n'était pas du tout de ce ressort-là. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose. Je crois que ça libère l'esprit. Vraiment, on réfléchit mieux, en tout cas, dans ces grandes plaines que trop confiné en ville ou entouré de montagnes.
Celui-là, La combustion humaine, vous l'avez écrit où ?
Je l'ai écrit en Suisse. Celui-là, c'est le premier, je crois, que j'ai écrit entièrement en Suisse ou que j'ai écrit entièrement... je crois que c'est Notre-Dame de la Merci avait... Non, Notre-Dame de la Merci aussi, mais j'avais déjà jeté quelques esquisses. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est... On me disait aussi, tu fais toujours de l'exotisme, tu penses que ça fait vendre d'aller aux États-Unis, d'aller au Québec. J'ai dit, maintenant je reviens, faites gaffe, foutez-vous à l'abri.
C'est vrai qu'il est très différent des deux autres.
Oui.
C'est peut-être aussi pour ça, parce que vous l'avez écrit au même endroit. On va écouter Anarchy in the UK. On trouvait avec Nathalie Schoenberg, la programmatrice musicale, que ça vous allait assez bien. Alors, on quitte les États-Unis, on va en Angleterre. UK.
Avec plaisir.
C'est parti. I am an anarchist. I am an antichrist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy the passerby, 'cause I wanna be anarchy. Anarchy for the UK is coming sometime, and maybe I give a wrong time, stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be anarchy. To get what you want, I use the best, I use the rest, I use the enemy, I use anarchy, 'cause I wanna be anarchy. excusez, pardon à tous les puristes, parce que c'était évidemment pas l'original, vous l'aurez remarqué. C'était le groupe Beau Catcher. On pourrait croire que ce sont des Québécois. On a regardé avec Quentin Mouron pendant qu'on écoutait la chanson. Ben non, ce sont des Français. Sarah Murcia, qui chante, et Fred Poulet à la contrebasse, c'est son vrai nom. Ils ont fait plein de reprises comme ça, ils ont l'air assez drôles. Ils ont repris Asimbonanga de Johnny Clegg, Les Copains d'abord, Tea for Two, Parole et Parole de Dalida, Le Freak, donc tout à fait éclectique comme groupe. Mais là, c'était Anarchy in the UK for you, oui, bien sûr. Pour vous, Quentin Mouron, qui êtes ici avec moi, écrivain, jeune écrivain, vous publiez votre troisième roman chez Olivier Moratel, La combustion humaine, ça c'est le titre, et c'est une combustion tout court pour beaucoup, beaucoup de gens qui apparaissent dans le livre puisqu'ils se font pas mal brûler et égratigner. On va continuer d'égrener votre parcours avec vous.
Volontiers.
Une troisième voie pour vous.
Ça m'énerve, moi, quand on voit ça, parce que est-ce que vous avez regardé ce que font les autres ? Tout le monde fait ça. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, peut-être pas en Suisse romande, mais tout le monde est obligé d'être à plusieurs endroits à la fois. Je dois gagner ma vie. Bon, je suis journaliste. Il se trouve que j'ai une formation de journaliste que j'ai faite pendant mes études de lettres. J'ai eu de la chance. J'ai fait une formation de conseil en publicité parce que j'étais au chômage en tant que journaliste, parce que j'étais au chômage en tant que prof. Je me suis arrangée. Et si j'écris des choses diverses, A, je ne suis pas la seule, et B, c'est parce que j'essaye de... J'ai pas envie de me répéter, quoi. J'ai pas envie que les gens, en prenant mon bouquin à la main, disent « ça, elle l'a déjà écrit ». Parce que moi, je connais des gens que j'ai adorés. Et puis, au bout de 3-4 bouquins, il n'y a plus rien d'inattendu. Je déteste ça parce que c'est des gens que je connais pas personnellement, mais enfin, je les aime en tant qu'écrivain. Et puis, tout à coup, je lis les 50 premières pages et tout à coup, je sais comment ça finit parce que j'en ai déjà lu 3 et je sais comment ça finit.
Quand ça commence par « ça m'énerve », c'est forcément Anne Cuneo. Enfin non, pas forcément, mais là c'était elle. C'est drôle, vous venez d'en parler, Quentin Mouron.
Oui.
Là, elle est en 2006 au micro d'Alain Maillard pour rendre à César. Donc ça a été votre marraine.
Oui, en tout cas dans le cadre d'un projet qu'a mené Isabelle Falconier pour le Salon du Livre, qui était Parrain Poulain. On a discuté tous ensemble assez longtemps sur ces appellations, mais enfin c'est vrai qu'avec Anne Cuneo on s'est très bien entendu et c'est vrai que c'est vraiment, elle est vraiment très cool, j'aime beaucoup et je crois que c'est réciproque, on s'est bien entendu et ça me fait plaisir chaque fois de la recroiser, de la revoir, et c'est toujours c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et une auteure également que j'apprécie,
que vous lisez volontiers,
que je lis également.
Un caractère très franc, en tout cas certains disent mauvais caractère, c'est pas vrai.
Non, moi je crois que c'est vraiment plutôt de la franchise et dans les deux sens, je pense qu'elle peut être comme ça tout d'un coup, dire quelque chose de manière très franc, très cash, et puis en même temps, je pense qu'elle doit être aussi capable de s'excuser si elle a été indélicate de la même manière, très franche et très cash, et c'est quelque chose, un trait de caractère que j'apprécie beaucoup chez elle.
Si je vous ai passé cet extrait-là, c'est aussi parce que j'ai envie qu'on parle de ça, de ce que c'est que d'être un auteur et de se renouveler. J'ai l'impression que vous avez fait précisément ça. Comme Anne Cuneo disait, vous ne voulez pas refaire la même chose. Et je pense que si elle lisait, ou si elle a lu peut-être, ce troisième livre, il s'est dit « Ah, mais je ne sais pas comment ça va continuer ».
Oui, là, c'est vrai que Michel Houellebecq écrit dans La possibilité du Nil, il écrit que c'est difficile pour un artiste ou pour n'importe qui du milieu du spectacle d'avoir finalement plus d'une ou deux idées à lui et plus d'une ou deux idées originales par carrière, que ça fait déjà beaucoup. Et c'est vrai que c'est des fois, on a l'impression, quand on voit des recyclages de même thème pendant des années, on se dit « Mais là, c'est bien, mais ça serait quand même bon aussi de passer à autre chose », ce qui ne veut pas dire qu'on redit ce qu'on a fait avant. Il y a des choses qui restent depuis le premier livre, des interrogations, notamment sur la solitude par exemple, ou sur le déterminisme, ou certaines choses qui restent comme ça très présentes chez moi, et en même temps j'ai envie à chaque fois de me remettre en question, de me remettre en danger, de me dire voilà, j'ai envie de recommencer à apprendre à écrire. J'ai donné dans l'autofiction et le roman de voyage pour le premier livre, j'ai pas envie de tourner en rond, j'ai vécu ça un moment, ça m'a plu, j'aime beaucoup ce premier livre, mais là j'avais vraiment envie de faire autre chose dans le deuxième, et puis dans le troisième encore quelque chose de différent, qui là en plus c'est peut-être un peu différent parce qu'il a quelque chose, une sorte de composante qui fait de ce livre une sorte d'ovnis en Suisse romande et même dans le paysage francophone en général. C'est vrai qu'il y a eu assez peu de livres comme ça prenant pour cible directement le milieu littéraire par ce biais-là, par le personnage d'un éditeur. Donc là, c'est vrai que je suis en terrain assez neuf, je défriche et c'est... C'était peut-être le plus difficile à écrire finalement parce qu'il n'y a pas de modèle, on ne peut pas se référer à quelque chose d'antérieur. Donc c'est vrai que ça a été peut-être le plus difficile à écrire et celui pour lequel j'ai mis, je pense, le plus de soin, où j'ai le plus pondéré chaque phrase, où j'ai vraiment, on n'a pas, ça n'a pas l'air des fois, mais enfin, c'est en mon sens le plus construit et de très loin. Mais c'est vrai que j'essaye de... Dans la manière dont j'écris en général, pas seulement dans les livres, mais dans ce que j'apporte aussi par le biais de chroniques que j'écris, que je vais continuer à écrire sur mon blog, dans les journaux. Et c'est aussi ça que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de défricher des nouveaux horizons finalement, comme les réseaux sociaux par exemple, qui est quelque chose d'assez peu exploré et que j'avais pas exploré précédemment. Donc c'est aussi se dire, mais j'ai envie de continuer à dire ce que je dis, j'ai envie de continuer à penser, mais en même temps, j'ai 24 ans, j'en avais 22 quand j'ai commencé. Ces deux ans, c'était pas juste une série de semaines et de jours. J'ai changé. J'espère que je vais continuer à changer. Il y a des gens qui disent, mais mon Dieu, mais faudrait, ouais, j'espère que tu vas pas changer. Mais quelle horreur. J'espère que je vais changer. Je me réjouis de changer. J'ai toujours changé. Donc, je vais continuer. Et évidemment, ça se reflète dans mes livres.
Vous évoluez comme tout le monde.
Oui, voilà, évidemment. Exactement.
Ouais. Vous parliez des réseaux sociaux. Je crois que le moment est venu de lire le deuxième extrait que j'ai choisi, extrait de votre livre, qui parle justement des réseaux sociaux avec là encore une vision assez pathétique, même si peut-être assez réaliste. On va en parler juste après. Sur Facebook, avait remarqué Morel, la syntaxe est souvent mise à mal, mais ce qui a subi le changement le plus significatif, c'est la ponctuation. Le point, la virgule, le point virgule, le point d'exclamation ont été jugés insuffisants et sont communément remplacés par 5 ou 6 points de suspension, un sourire, un cœur, un clin d'œil, une licorne. Pour certains usagers, il est absolument hors de question de terminer une phrase autrement que par un sourire ou un clin d'œil. Ainsi, contribue-t-il à créer un climat de détente et de joie qui fait que l'on se connecte pour se ressourcer, se rassurer, se compenser, enfin pour aller mieux. L'inconnue qui publiait son premier livre disait combien elle était émue, combien les laudateurs comptaient pour elle. Nul doute qu'elle se sentait bien dans cet univers artificiel et infantile où l'on se bombarde quotidiennement de compliments, d'encouragements, de citations bouddhistes, de poèmes romantiques, de professions de foi en faveur de la paix et de couchers de soleil sur le Machu Picchu. Morel, bien entendu, ne s'y laissait pas prendre. Il avait suffisamment observé les gens pour savoir qu'il n'y a pas plus sûr signe de leur chute que lorsqu'ils commencent à rire trop bruyamment. Ils se disent heureux et se pendent ensuite. Facebook, ce matin-là, avec son cortège de licornes, de cœurs et de sourires, n'était que l'avant-dernier acte d'une tragédie. L'inconnu à compte d'auteur et la vingtaine d'exultants, tout serait à vivre, pensa Morel, des heures pénibles et décisives avant la fin de l'année. Il se demanda alors lesquels seraient internés, lesquels se tueraient, lesquels encore s'en tireraient indemnes. Vous n'êtes pas très gentil, hein, Quentin Mouron.
Il y a un article très intéressant qui est paru récemment qui montrait un individu qui a fait l'expérience d'être honnête un seul jour sur Facebook et qui a perdu la moitié de ses contacts, de ses amis. Et c'est assez, pour moi, c'est assez éloquent. Et puis, bon, j'ajoute quand même que j'en ai fait un portrait très noir parce que le personnage que j'ai choisi est aussi assez atypique, assez cynique. Moi-même, j'utilise ces réseaux sociaux. Et c'est là, je crois que c'est encore le point qui a fâché le plus de gens, ces commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je reçois le plus de mails d'insultes et d'insultes en général, ou alors de plaintes. C'est pour me dire, oui, mais je me suis reconnu, mais vous savez, et ci et ça.
Alors que c'est inventé.
Oui, alors bien sûr, alors c'est inventé. Et puis en plus, comme si au fond j'étais méprisant avec ça, que j'étais quelqu'un qui n'utilisait pas moi-même les réseaux sociaux, alors que je le fais très volontiers. Certaines personnes croient me l'apprendre en me disant, mais vous utilisez vous-même les. Ben oui, bien évidemment. ce qui fait que je peux avoir un regard dessus, ce qui fait que j'ai le droit de porter un jugement. Et j'ai mis là en avant la partie la plus sombre et la plus ridicule et la plus pathétique des réseaux sociaux. J'aurais pu aussi évidemment dire du bien dans un certain sens, que ce soit pour la communication, pour rester en contact. Ça peut être aussi pour les personnes âgées qui par exemple ont plus de difficultés à sortir de chez elles. Et bien ça leur permet aussi de continuer à échanger. Il y a toutes sortes d'éléments très positifs, que ce soit par rapport à Facebook, Twitter, Instagram, ask.fm, enfin peu importe. Mais disons, moi j'avais envie de vraiment mettre l'accent là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez ridicule, mais qui est symptomatique. Je pense pas que c'est les réseaux sociaux qui sont ridicules, qui sont pathétiques et qui sont un sujet de livre. Ce sont vraiment les utilisateurs.
C'est l'utilisation qu'on en
voilà,
fait.
Voilà, exactement. Je crois que c'est ce que je dis à un moment. Je dis, mais c'est difficile d'écrire un roman qui porte sur le téléphone à l'exclusion de ceux qui l'emploient, et c'est vraiment ceux qui l'emploient qui m'intéressent. Et mon éditeur l'utilise, moi-même j'utilise, les autres auteurs l'utilisent, tout le monde l'utilise, c'est ça qui m'intéresse et qui est assez peu, qui est un terrain qui a encore été assez peu défriché. Il y a eu quelques livres, je crois, je les ai pas lus, mais enfin qui prennent cette thématique-là. Moi, ça m'intéresse d'explorer ça. Il y a aussi, par exemple, j'étais invité l'autre jour avec Bernard Pivot sur la télévision suisse romande, qui lui a écrit quelque chose sur Twitter aussi. C'est une autre manière. Seulement, lui, c'est des tweets. Il a publié directement des tweets, mais c'est d'autres manières de s'interroger sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui prend vraiment de la place pour les individus. Il suffit de regarder dans le métro, il suffit de discuter avec les gens pour se rendre compte que c'est quelque chose de plus en plus important. Et c'est vrai que j'ai l'impression que plus l'âge avance, plus la vie avance, plus
on s'y plonge.
Plus on s'y plonge, oui. Mm-hmm. Contrairement à ce qu'on dit, on lit toujours des études sur les jeunes accros à Internet, aux réseaux sociaux. C'est vrai d'une certaine manière, mais en même temps, c'est pas complètement vrai. Je crois que c'est vraiment... je pense que plus on avance, plus on a besoin de ça pour essayer d'avoir une compensation de vie sociale. Je pense que c'est bien, mais ça ne doit pas non plus devenir une excuse pour ne plus sortir de chez soi.
Monde virtuel, c'est la chanson que je vous offre pour terminer cette émission, ça tombe bien, hein ?
Parfait.
C'est M. Voilà, c'était M, malheureusement seulement un extrait de la chanson. On la passera en entier un autre jour. Promis, monde virtuel pour terminer cette émission avec vous, Quentin Mouron. La combustion humaine, c'est le titre de votre dernier roman. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu, bonne journée.
Bon retour chez vous. C'est paru chez Olivier Moratel, à souligner. Olivier Moratel, qu'on salue par ailleurs. Voilà. Demain, autre sujet, complètement, on va parler d'élégance avec Nathalie Riquel. C'est la fille de Sonia Riquel, donc élégance et mode bien sûr, mais Nathalie Riquel sort un manifeste sur l'élégance aux éditions Autrement. Un livre à lire absolument, très joli livre. On mettra une petite robe noire pour l'occasion. Merci encore à toute l'équipe. Isabelle Barthes était en régie avec moi, juste après les infos. Émilie Gasse, qui est passagère. Il est 15h sur La Première.